soirée à vous à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite, c'est le journal Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal et c'est le grand retour du clapping ce soir au Stade de France. Les Bleus affrontent l'Islande, on sera en direct dans un instant avec Cyril de la Morinerie. Pour l'instant, tout roule pour la France qui mène 1-0 à la 59e minute. On sera aussi à l'Élysée avec Jean-Rémy Baudeau qui suit la visite d'État du président chinois. Avant le dîner de gala, on a parlé contrat. Airbus notamment se frotte les mains. Geneviève Legeais, la manifestante niçoise, a bien été poussée lors d'une charge des forces de l'ordre samedi dernier, mais pas par un policier. C'est ce qui ressort des premières conclusions du procureur de Nice. Sa famille, elle, ne décolère pas après les propos d'Emmanuel Macron. Les élections européennes, c'est dans 2 mois et l'écart se resserre entre La République En Marche, qui est en tête, et le Rassemblement National. On verra aussi que la couverture vaccinale s'améliore pour les bébés en France. Et puis la météo, prenez la carte d'aujourd'hui, posez-la sur la journée de demain, ce sera pratiquement la même chose. Attention toutefois au vent qui va se renforcer cette nuit sur le sud-est avec des rafales à 110-120 km/h. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Laure Prena. Elle est la directrice générale de Panora Bank, un comparateur de tarifs bancaires en ligne.
Europe 1.
Et on part tout de suite au Stade de France, comme promis, où les Bleus de Didier Deschamps, après leur victoire 4-1 vendredi contre la Moldavie, jouent ce soir leur deuxième match des éliminatoires de l'Euro 2020. On suit ça en fil rouge avec vous, Cyril de la Morinerie. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Isabelle.
Et c'est donc la deuxième mi-temps et la France qui domine.
Exactement, 1 heure de jeu et 1-0 pour l'équipe de France face à l'Islande avec ce but marqué par Samuel Umtiti à la 12e minute. C'est une tête, un poteau rentrant sur un centre de Mbappé, une équipe de France qui domine largement les débats, qui s'est procuré une multitude quelques occasions, mais beaucoup plus d'occasions en tout cas que les Islandais. Ils ont une seule occasion, les Islandais, début de seconde période avec Bjørn Hansson, sa frappe qui est arrêtée par Loris. Mais donc, les Français ont eu des occasions, notamment avec Kylian Mbappé. On se souvient tout à l'heure d'une accélération foudroyante dans la surface de réparation, la frappe et ce ballon qui est passé juste à côté du second poteau. Et puis, Benjamin Pavard, alors que Antoine Griezmann est près de la surface de réparation, va frapper au-dessus. Benjamin Pavard a frappé à 2 reprises et à chaque fois que Pavard se retrouve dans cette position à une vingtaine de mètres, le stade se lève et parce qu'il y a une clameur, parce que ça nous rappelle cette fameuse frappe de Pavard face à l'Argentine. C'était en 8e de finale à la Coupe du Monde. Alors 2 tentatives, malheureusement pour lui ça n'a pas été au fond. 1-0 pour les Français face à l'Islande après 1 heure de jeu.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie, que l'on retrouvera pour un nouveau point d'ici la fin de ce journal. La famille de Geneviève Legeais, la Septuagénaire blessée samedi à Nice en pleine manifestation des Gilets jaunes, a déposé plainte contre le préfet et contre les forces de l'ordre. Alors que les circonstances restent encore floues, écoutez le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, qui a donné quelques précisions cet après-midi. Pour lui, la militante n'a pas été victime d'un geste intentionnel des policiers.
Elle était vraiment dans un flux qui avançait, avec des personnes qui reculaient devant les forces de sécurité. Ce dont on est sûr aussi, c'est qu'elle n'a pas été touchée par les forces de sécurité. Que ce soit la vidéosurveillance de la ville ou les images de France 3, on ne voit aucun contact direct entre un agent de sécurité et cette dame. Il y a un phénomène collectif, quoi, à l'évidence, là-dedans.
Le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, cet après-midi au micro Europe 1 de Jacques Terrance. Je vous le disais, la famille de Geneviève Legeais a porté plainte. Et la fille de la septuagénaire réagit aujourd'hui sur Europe 1 aux propos d'Emmanuel Macron qui, dans les colonnes de Nice Matin, lui souhaite un prompt rétablissement, mais aussi une forme de sagesse. Pour le chef de l'État, quand on est fragile, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits.
On se demande qui a besoin d'une forme de sagesse. Pas ça digne d'un président. Je suis la fille d'une personne qui a été blessée. Comment voulez-vous qu'on comprenne les propos de ce monsieur ? Non, mais franchement, je suis écœurée.
Delphine Parent, l'une des filles de Geneviève Legeais, jointe pour Europe 1 par Aude Vernuccio. Une manifestation de soutien à la septuagénaire s'est tenue ce soir à Nice. Des violences aujourd'hui dans la ville du Mans entre les forces de l'ordre et des forains. Une manifestation a dégénéré en vraie bataille rangée. Le ministre de l'Intérieur dénonce des attaques d'une violence inouïe. Le trafic des TGV Atlantique vers le sud-ouest a été très perturbé aujourd'hui en cause des manifestants qui ont occupé les voies en gare de Vendôme dans le Loir-et-Cher. Des salariés du papetier Arjo-Wiggins, dont 3 usines sont menacés de fermeture. La Chine à l'honneur. Son président accueilli en grande pompe à Paris aujourd'hui après Nice hier. Jean-Rémy Baudeau, vous suivez cette visite pour Europe 1. La France a littéralement déroulé le tapis rouge.
Oui, Isabelle, et comme toute visite d'État, il y a eu un accueil dans la cour de l'Élysée, un accueil en musique par la garde républicaine. S'en est suivi une rencontre en tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Xi Jinping. Il a été question de coopération dans l'industrie, le climat, la culture, mais aussi, évidemment, de business. De nombreux contrats ont été signés, notamment dans l'aéronautique, quelques 300 avions pour plus de 30 milliards d'euros. Écoutez, Guillaume Faury, numéro 2 d'Airbus.
C'est un contrat d'une dimension très importante. Alors, c'est des appareils qui sont construits soit en Chine, parce que vous savez qu'on a une chaîne d'assemblage à Tianjin qui produit de plus en plus d'appareils, et un complément qui est fabriqué en Europe.
Le président Macron a un objectif dans cette visite, c'est faire accepter aux Chinois que les règles commerciales puissent être plus réciproques. D'accord pour que les Chinois investissent massivement en Europe, mais il faut qu'ils laissent un accès au marché public pour les entreprises françaises et européennes. Ce sera notamment le sens d'un sommet inédit Europe-Chine demain matin à l'Élysée. Un mot quand même pour finir, car une visite d'État ne serait rien sans un dîner d'État. Ça se passe actuellement à l'Élysée. Plusieurs centaines d'invités, des politiques, des patrons et quelques stars parfois inattendues. La chanteuse Hélène Rollès fait partie des convives. Car oui, Hélène et les garçons s'exportent toujours aussi bien actuellement en Chine. Et Hélène, là-bas, c'est une véritable star.
Jean-Rémy Baudeau qui est à l'Élysée pour Europe 1. Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Des opposants au régime chinois ont manifesté aujourd'hui à Paris à l'occasion de cette visite du président, en majorité des Tibétains et des Ouïghours, minorités opprimées en Chine. Emmanuel Macron a déclaré avoir fait part à son homologue des préoccupations de la France et de l'Europe sur le respect des droits de l'homme en Chine. Les élections européennes et le parti La République En Marche qui doit entériner demain le nom de Nathalie Loiseau comme tête de liste. En conséquence, cette dernière s'apprête à démissionner de son poste de ministre des Affaires européennes. Départ qui va entraîner un mini-remaniement. On ne sait pas encore de quel remaniement il s'agira. Pascal Canfin est lui pressenti pour devenir numéro 2 de cette liste. Il a remis en tout cas cet après-midi sa démission de l'ONG WWF France, dont il occupait le poste de directeur général. Les élections européennes, c'est donc dans 2 mois et l'écart se resserre entre La République En Marche qui est en tête et le Rassemblement National. Confirmation ce soir avec Édouard Le Cerf, politologue, directeur général adjoint du groupe BVA, à l'origine, avec Orange, d'un sondage pour Europe 1 et La Tribune.
L'écart se resserre un peu. Il y a plusieurs mouvements intéressants dans cette enquête par rapport aux enquêtes précédentes. D'abord, effectivement, le Front National qui gagne 2 points, qui recolle un peu juste derrière La République En Marche et le Modem. 24% pour La République En Marche et le Modem, 21% pour le Rassemblement National. On voit bien qu'il y a une première division, en quelque sorte, déjà installée depuis plusieurs semaines. Juste derrière, si on veut rentrer un peu dans le détail, bien, vous avez une seconde division qui est dominée, mais ça n'est que la seconde division, par la liste Les Républicains.
Estimation de la participation dans cette étude, 45 à 51%, 42% pour le dernier scrutin. Ça reste l'élection qui intéresse le moins les Français.
Oui, on sait que c'est l'élection qui pâtit de cela. On avait effectivement déjà, lors du dernier scrutin, vu cette participation qui a beaucoup de mal à dépasser les 50%. Là, on est encore aujourd'hui un cran plus haut, mais franchement, rien n'indique que l'on doit être extrêmement optimiste sur la mobilisation.
Édouard Le Cerf, directeur général adjoint du groupe BVA, il était ce soir l'invité du Grand Journal de Mathieu Béliard sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal. On parlera de la vaccination et des bébés français qui sont désormais mieux protégés. Et puis on retrouvera bien sûr Cyril de la Morinerie pour le foot. France Islande, toujours 1-0 pour les Bleus. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h10, merci d'écouter Europe 1 et ça bouge au Stade de France, Cyril de la Morinerie.
Eh oui, avec le but d'Olivier Giroud, décidément exceptionnel, lui qui avait marqué face à la Moldavie et qui là marque le deuxième but de l'équipe de France sur un centre, me semble-t-il, là de Pavard avec Giroud qui récupère ce ballon et qui permet donc à cette équipe de France de mener 2-0. C'est son 35e but avec le maillot tricolore, il dépasse désormais Trezeguet. Il est exceptionnel, Olivier Giroud. 2-0, 68 minutes de jeu pour l'équipe de France face à l'Islande.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie, en direct du Stade de France. On vous retrouve, hein, restez en ligne surtout. Des nouvelles de notre santé d'abord. Il y avait cet après-midi un comité interministériel qui lui était consacré avec plusieurs informations importantes. Une confirmation, le nombre de fumeurs en France continue à baisser. Plus d'1,5 million de personnes ont stoppé le tabac depuis 2016. Autre info intéressante et concernante, les tests rapides qui permettent de vérifier si une angine est virale ou bactérienne. Eh bien, ces tests pourront être utilisés dans toutes les pharmacies à partir du 1er janvier 2020 et ils seront pris en charge par la Sécurité sociale pour éviter la prescription d'antibiotiques inutiles. Et puis le Premier ministre s'est également félicité cet après-midi des progrès en matière de vaccination. Il a dévoilé les nouveaux chiffres de la couverture vaccinale des bébés.
S'agissant du vaccin hexavalent, C'est un taux désormais de 98% qui prévaut. Il était de 93% l'année dernière. On est donc remonté, et c'est très bien ainsi. S'agissant de la vaccination contre le méningocoque, on est passé d'un chiffre de 39% à un chiffre de 76%. Ce qu'on observe, c'est plusieurs choses. D'abord, la prévalence de la vaccination augmente. Ensuite, nous constatons que dans les familles, ce ne sont pas simplement les enfants qui doivent être vaccinés au terme de la loi qui sont vaccinés, mais l'ensemble de la famille, ce qui est un excellent résultat. Et puis la troisième chose, c'est que le discours sur la vaccination est en train de changer. Pendant très longtemps, on a vu se développer dans notre pays des soupçons, des mises en cause de l'intérêt de la vaccination. Et j'observe qu'aujourd'hui, dans le débat public, la tonalité a changé. Nous sommes en train de remettre la vaccination au cœur du système de prévention, et c'est une excellente nouvelle.
Édouard Philippe, cet après-midi au micro Europe 1 de Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1. L'ouverture aujourd'hui du procès en appel d'Abdelkader Merah, le frère du tueur de Toulouse et de Montauban. En 2017, la cour d'assises spéciale de Paris l'avait condamné à 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes criminels, mais l'avait acquitté du chef de complicité. Et ça, les familles des victimes ne l'ont jamais accepté. Chloé Triomphe, c'est d'ailleurs l'enjeu de ce procès que vous suivez pour Europe 1 et pour ces familles. Revoir Abdelkader Merah dans le box n'a fait que renforcer leurs convictions.
Oui, dans le box, c'est le même homme qu'en 2017, fines lunettes, cheveux longs, barbe légèrement épaissie, qui considère la salle d'un air parfaitement calme. Et le hasard du calendrier fait qu'Abdelkader Merah est incarcéré depuis 7 ans, jour pour jour, ce 25 mars. Au premier et au deuxième rang, de l'autre côté de la salle, les familles des 7 victimes de son frère ont repris leur place sans s'en rendre compte, exactement les mêmes que lors du premier procès de 2017, qu'elles avaient très difficilement vécu. Alors aujourd'hui, ses proches, parents des soldats et des victimes de l'école juive de Toulouse, savent qu'ils sont repartis pour 4 semaines d'audience et tous affichent la même détermination à être présents le plus possible et surtout, tous espèrent que la cour d'assises aboutira à un verdict différent et plus sévère. Ils espèrent qu'Abdelkader Merah sera condamné cette fois pour complicité d'assassinat avec son frère Mohamed tué par le raid, mais il faut pour cela que la cour établisse avec certitude qu'il était au courant des actes qu'allait commettre son petit frère et qu'il l'a donc aidé en toute connaissance de cause. Ce sera tout l'enjeu des débats.
Chloé Triomphe à la Cour d'appel de Paris et ce nouveau procès doit durer 4 semaines. Les recours de Nicolas Sarkozy rejetés par la Cour d'appel de Paris. L'ancien président contestait son renvoi en correctionnel dans l'affaire de corruption et de trafic d'influence révélée par des écoutes téléphoniques. L'armée israélienne a lancé en fin d'après-midi des frappes dans la bande de Gaza en représailles au tir de roquettes qui avait fait 7 blessés au nord de Tel Aviv la nuit dernière. Le Hamas, dont le siège a été touché, annonce ce soir un cessez-le-feu, alors que parallèlement, les États-Unis ont reconnu aujourd'hui le droit absolu d'Israël de se défendre. Donald Trump a signé un décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le Golan. Donald Trump qui jubile depuis hier soir, l'enquête du procureur Mueller n'a pas réussi à prouver la collusion entre son équipe de campagne et les Russes lors de la présidentielle de 2016. Le président américain se dit totalement disculpé. Ce qui est sûr, c'est que ses conclusions sont une bouffée d'oxygène qui lui permet d'envisager plus sereinement son avenir politique. Theresa May, elle, est loin, très loin de jubiler alors qu'un vote crucial a lieu ce soir puisque les députés britanniques doivent se prononcer sur un amendement qui leur offrirait en quelque sorte la possibilité de prendre la main sur le processus de sortie de l'Union européenne. La Première ministre reconnaît que l'accord de Brexit négocié avec Bruxelles n'a pas le soutien suffisant au Parlement pour être soumis une troisième fois au vote des députés. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu aujourd'hui dans le village d'Ogossagou où 130 habitants peuls ont été tués samedi par de présumés chasseurs dogons. Il faut la sécurité ici, c'est votre mission, a déclaré le président à l'intention du nouveau chef d'état-major. Il a été nommé hier à la suite du limogeage des principaux chefs de l'armée. On va retourner rapidement au Stade de France, rejoindre Cyril de la Morinerie, qui tout à l'heure nous a fait vivre en direct le but d'Olivier Giroud.
Mais oui, effectivement, Olivier Giroud qui a marqué sur un centre de Pavard. Il a repris ce ballon de la cuisse gauche. C'était pas très académique, mais c'est l'essentiel pour l'équipe de France de marquer ce deuxième but. Et on a vu le sourire d'Olivier Giroud qui a marqué, donc, je vous le disais il y a un instant, son 35e but, qui n'est plus qu'à 6 buts de Platini, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Alors que là, Griezmann va peut-être donner à Olivier Giroud dans la surface de réparation, qui aurait peut-être marqué le troisième but. Alors juste un petit point sur le classement de ces éliminatoires, parce que la France, là, s'achemine, on l'espère pour eux, pour les Français, vers une victoire. Il reste 15 minutes. Sachez que la Turquie s'est imposée face à la Macédoine 4-0 et donc en tête de ce classement des éliminatoires, grâce à une meilleure différence de but que les Français. Mais on n'a pas terminé ici au Stade de France, sait-on jamais, les Bleus pourraient marquer, on l'espère pour eux, donc un troisième but. 2-0 pour le moment, 75 minutes de jeu pour l'équipe de France, but d'Umtiti et but de Giroud.
Sait-on jamais, vous nous appelez évidemment si ça bouge. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie en direct. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Météo marquée par la fraîcheur. Elena, on dit pourtant que c'est en avril qu'on ne doit pas se découvrir d'un fil.
Ah bah oui, mais Isabelle, vous êtes comme Mathieu Béliard, hein. Vous ne connaissez pas le dicton suivant, entre le 24 et le 26 mars, la carcasse se glace. Tout ça à cause d'une mauvaise position de l'anticyclone qui, en plus de la neige aujourd'hui sur les reliefs de l'Est, véhicule une bise rafraîchissante sur l'ensemble du pays. Attention, dans le sud-est, le vent se renforce cette nuit avec des pointes à 110-120 km/h pour le Mistral. Vent qui commencera quand même à mollir demain après-midi. Vent qui a le mérite de nettoyer le ciel de tout nuage sur la moitié sud. Ciel bleu également sur la façade atlantique demain. Variable sur une grande partie nord-est avec des nuages un peu plus nombreux au nord de la Seine. Le seul hic de demain, c'est finalement une dépression qui se creuse sur l'Italie et qui sera à l'origine du vent, de la pluie, de la neige sur la Corse. Ce sera moins agité l'après-midi et puis un retour au calme véritablement mercredi et des températures qui remonteront chaque jour un peu plus avec des valeurs comprises entre 9 degrés à Épinal par exemple jusqu'à 19 degrés à Montpellier. Entre les deux, vous aurez 11 degrés demain après-midi au Havre et au Serre, 12 à Lille et Clermont-Ferrand, 13 à Rouen et Paris. On est dans une atmosphère de fin d'hiver, hein. 14 à Brest, Nantes et Angoulême, 15 à Lyon, 16 à Bordeaux, Biarritz, Toulouse et Ajaccio et 17 pour Marseille.
La météo signée, Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir la directrice générale de Panora Bank. C'est un comparateur de tarifs bancaires en ligne. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h19, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui se veut encore prudent après sa forte baisse de la fin de semaine passée.
Pas de risque à Wall Street qui avait chuté en fin de semaine dernière, oui, assez nettement, hein, sur des craintes concernant la croissance économique. On limite la baisse à 0,07%, pas grand-chose sur le Nasdaq, à 7 637 points. Et le Dow Jones gagne même 0,06%, 25 516 points en très légère progression. Le titre Apple, c'était l'intérêt de la séance du jour, qui a présenté officiellement son nouveau service de streaming, recule finalement de 1,8%. Pas de quoi inquiéter donc son concurrent Netflix qui gagne 1,5%. Boeing remonte aussi de 2,3% en attendant une présentation de relance de son 737 Max mercredi après les récents accidents de l'appareil. Le pétrole varie peu, 67$ le Brent, un petit peu au-dessus, 67,10$. L'euro est à 1,1315, pas de changement face au dollar.
Et la Bourse de Paris, elle, a commencé cette semaine en légère baisse.
Petite baisse de 0,18%, 5 260 points sur l'indice CAC 40. Les inquiétudes concernant la croissance mondiale continuent de peser sur la tendance, de même que les risques de Brexit durent. Quelques grandes valeurs redonnent encore du terrain, comme Carrefour, moins 2,6% après l'abaissement de sa note par Standard & Poor's. Valeo, moins 1%. Là, c'est Moody's qui a abaissé ses notes sur l'équipementier automobile. Et puis, le secteur automobile, justement, recule encore. Renault, moins 1,8% et Peugeot, moins 2,9%.
Exception du jour, les nouveaux constructeurs qui ont grimpé de près de 15%.
Oui, le promoteur s'enflamme de 14,6% exactement, 47 euros, très forte hausse après une progression du bénéfice net du groupe en 2018, 98,6 millions d'euros sur fond de renforcement de son carnet de commandes. La marge nette des nouveaux constructeurs progresse à 11,7% et le titre flambe de pratiquement 15% ce soir. Sur les autres places financières, ça baisse un petit peu partout, mais dans des proportions limitées. Le DAX à Francfort, moins 0,15%. Madrid, moins 0,2%. Milan, moins 0,1%. Londres, moins 0,4%. On rappelle le CAC 40 en baisse de 0,18%. 5 260 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Didier Hamot de boursier.com. Et pendant que vous nous parliez, Didier, j'ai vu qu'il se passait quelque chose au Stade de France.
Oui. Et Kylian Mbappé qui triple la mise. 3-0 pour l'équipe de France face à l'Islande. Un superbe service de Griezmann qui sert dans la profondeur, dans la surface de réparation. Kylian Mbappé qui prend le dessus sur la défense islandaise. Frappe croisée à terre et but. Sourire sur le banc de touche de Didier Deschamps qui est 1-0. Est un petit peu sur sa réserve. Et bien là, 3-0.
Il peut respirer.
Là, il peut respirer. Les Français font vraiment deux très très bons matchs. Moldavie 4-1 et là 3-0 contre l'Islande. Il reste 10 minutes.
Il peut encore se passer des choses. Merci encore. Beaucoup Cyril de la Morinerie. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité éco, Emmanuel Duteil. Sans transition, vous recevez ce soir la directrice générale de Panorabank.
Bonsoir Laure Prenat.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de Panorabank. C'est un comparateur de tarifs bancaires en ligne. Si on a eu envie de vous inviter, c'est pour une bonne nouvelle. Quand on parle de banque, on n'a pas toujours des bonnes nouvelles. Mais là, c'est la première fois depuis 3 ans. Les frais bancaires sont en baisse pour cette année. Alors c'est une petite baisse, une baisse de 1%, mais c'est une baisse. Pour commencer, quand on parle de frais bancaires, vous englobez quoi ? Ça veut dire quoi ces frais bancaires ?
Alors, les frais bancaires englobent tout ce qui concerne la carte bancaire, mais également les opérations courantes, donc les frais de gestion du compte sur Internet, les frais de tenue de compte, le découvert, quand on dépasse la limite autorisée ou pas, c'est les principales opérations.
Et c'est vrai que ça se chiffre quand même à pas mal, hein, puisque l'année dernière, on était à 217,30€, si je ne dis pas de bêtises, et cette année, on va passer à 215,10€. Ça reste quand même très élevé quand on regarde ce montant.
Exactement. La facture est assez salée. Malgré la baisse, c'est des frais qui sont très élevés.
Comment on explique du coup cette petite baisse de 1%?
Alors, il y a différentes choses. Déjà l'année dernière, en fait, la tendance qu'on avait vue, c'était que l'augmentation de tarifs l'année dernière était plus faible que les années précédentes.
On était quasi stable, pour être honnête.
On était à 0,25% de hausse de tarifs, ce qui était très faible. Ça s'explique parce que les banques sont de plus en plus regardées. La concurrence s'est accentuée. Il y a les banques en ligne qui pratiquent des tarifs très avantageux. On a les néobanques qui arrivent. Donc tout ça fait que les banques ne sont pas dans une phase où elles ont envie d'augmenter beaucoup leurs tarifs.
Donc finalement, ce que vous nous dites, c'est parce qu'elles sont contraintes.
C'est parce qu'elles veulent garder leurs clients. Mmh. Et la deuxième chose, et ça rejoint encore ce point de vouloir garder ses clients, c'est la mobilité bancaire est maintenant facilitée. Donc depuis février 2017, avec la loi Macron, il suffit de signer un simple mandat dans la nouvelle banque et c'est elle qui s'occupe de toutes les démarches. Donc il est beaucoup plus facile de changer de banque. Et donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile de garder ses clients et qu'il faut donc être bon aussi bien sur le tarif que sur les prix.
Alors pour expliquer notamment une partie de la baisse, alors moi j'étais totalement impressionné de voir que ça existait encore, mais il y a de moins en moins de banques qui facturent les frais d'abonnement pour la gestion du compte sur Internet, mais j'ai vu qu'il en restait quelques-unes, notamment vous citez la Banque de Savoie, si je ne dis pas de bêtises, où il faut payer une 50aine d'euros par an pour pouvoir avoir accès à ses comptes sur Internet, et vous dites que c'est quand même l'une des, pas des principales raisons, mais c'est l'une des raisons pour expliquer la baisse des frais bancaires.
Cette année, seulement 3% des Français vont payer ce genre de frais qui sont en voie de disparaître. L'année dernière, on était en dessous de 90%, on était à 89% des Français qui n'allaient pas payer.
Oui, donc c'est assez notable le mouvement qui est en train de se faire.
Et notamment, si on veut citer un exemple, on a le Crédit Mutuel qui a enlevé ses frais de gestion du compte sur Internet qui étaient de 12 euros, qui sont passés à zéro. Mmh. En revanche, on a toujours des banques, comme vous citiez tout à l'heure, qui les facturent, notamment aussi le groupe Crédit du Nord qui facture des frais très importants pour cette gestion sur Internet qui n'a pas de sens aujourd'hui.
Laure Prenat, je rappelle que vous êtes la directrice générale de Panorabank et c'est vous qui avez fait ce classement d'une certaine manière et c'est quelque chose que vous regardez sur la durée, donc c'est en cela où c'est intéressant. Vous disiez, ça s'explique parce que les banques ont de plus en plus de concurrence, notamment des banques en ligne. Vous citiez également les néobanques. Alors, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, des néobanques, mais alors, c'est vraiment celles qui sont sur des services très particuliers. N26, Revolut, par exemple, font
nickel.
Partie de ces... Le compte Nickel, exactement, qui font partie de ces néobanques. Mais est-ce que c'est parce qu'elles rendent totalement gratuite bien souvent la tenue de compte que la moyenne baisse ou il y a vraiment une évolution globale du marché pour expliquer une baisse ?
Alors, il y a les deux. On voit les banques traditionnelles qui baissent également leurs tarifs. On a cité dans notre enquête la baisse du package vendu par la Société Générale. Le nouveau package Sobrio est beaucoup moins cher que l'ancien package Jazz de la Société Générale. Il est autour de 82€ maintenant. Avant, il était au-delà de 100. Donc, même les banques traditionnelles évoluent. En plus, pour expliquer la baisse des frais moyens payés par les Français, on a aussi de plus en plus de Français qui vont dans des banques moins chères et donc mécaniquement, ça fait baisser aussi la moyenne.
Alors on pourrait se dire aussi, merci l'État pour une fois, puisque les banques, sous la pression de l'État, ont pris un engagement de geler à la base les frais bancaires pour cette année. C'était une des réponses à la crise des Gilets jaunes. Ça avait été annoncé le lendemain ou le surlendemain.
En décembre 2018.
Voilà, des annonces du président Macron en la matière. Souvent, on sait ce que ça veut dire, un gel. C'est une bonne nouvelle, mais derrière, c'est un coup de massue. Vous prévoyez quoi, vous ?
Alors, si je regarde ce qui s'est passé il y a un an, où déjà la hausse était faible, nous anticipons que cela reste modéré. Voilà. Après, les banques traditionnelles ont des coûts importants. Donc, effectivement, certaines pourraient être amenées à les augmenter. Mmh. Mais on surveille ça de près et on espère évidemment que ça n'augmente pas.
Oui, parce que là, c'était aussi beaucoup d'engagements qui avaient été pris à ce moment-là. C'était surtout pour ouais. les clients qui sont dans des situations les plus difficiles, hein, pour les moins aisés d'entre nous. Vous avez l'impression que malgré tout, du côté des banques, elles ont le sentiment que, bah voilà, elles ont peut-être un petit peu exagéré ces dernières années sur ces frais bancaires, et notamment pour les moins aisés, hein, quand ils sont à découvert ou ce genre de choses. Souvent, c'est le coup de massue encore là.
Mais quand vous parliez du gel des tarifs bancaires, on aurait pu s'attendre, comme le gouvernement demandait de geler les hausses, qu'ils annulent les baisses. Oui. Or, les baisses ont été maintenues. Donc ça, c'est quand même un bon signal envoyé de se dire, voilà, les banques avaient aussi envie de faire un vrai effort.
Est-ce qu'on peut aussi imaginer que cette baisse, c'est, on disait pour le gel là, qui avait été décidé, mais les banques aussi ont compris, avec cette crise des gilets jaunes, eh ben, que ça faisait partie des hausses qui ne peuvent plus passer nos frais bancaires. Est-ce qu'il y a également ce petit sentiment ?
Alors, je ne suis pas dans la peau des banques.
Mais en tout cas, vous les connaissez bien et de ce que vous avez entendu.
Mais évidemment, c'est pas le bon moment pour faire une hausse de tarifs en ce moment, vu la situation. Et ils ont plutôt envie de faire un effort. Ils sont aussi dans une démarche où ils ferment des agences pour, du coup, limiter leurs coûts et peut-être offrir un meilleur tarif aux particuliers. Ils incitent les clients à faire de plus en plus de choses sur Internet, à être autonomes. Et donc, tout cela va dans le bon sens et va rendre service aux Français.
Et donc, on a une petite baisse cette année. Mais c'est vrai que certains de nos auditeurs, quand ils m'ont entendu dire 217,30€ l'année dernière, 215,10€ cette année, ont peut-être calculé, ça fait 2,20€ gagnés à l'année. Mais bon, ces 2,20€ sont toujours mieux dans notre poche que dans celle des banques. En tout cas, un grand merci, Laure Prenat. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Panora Banque, d'être venue ce soir dans ces studios d'Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
Évidemment, on vous retrouve demain. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Dutheil. Et on n'arrête plus les Bleus au Stade de France, Cyril de la Morinerie.
Avec un quatrième but. Et il a été marqué cette fois par Griezmann, qui a fait un petit ballon piqué pour lever le gardien. Mais il faudra regarder aussi cette passe magnifique de Mbappé. Une talonnade donc dans la course de Griezmann. 4-0 pour l'équipe de France. Il reste 3 minutes à jouer.
Et on est content de vivre ça en direct avec vous. Merci, Cyril. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Et la palme de la une revient au journal Libération avec une photo d'Emmanuel Macron de profil et en arrière-plan, le président chinois. Et surtout, surtout ce titre, Chine-Europe, c'est Xi le patron, Xi comme Xi Jinping, bien sûr, actuellement en visite en France. Après des années de naïveté face à la politique commerciale agressive de Pékin, l'Union européenne tente de faire front commun à l'occasion de cette visite du président chinois. Trop tard, s'interroge Libération. Élections européennes, tous écolos, titre pour sa part le journal L'Opinion. De la France insoumise au Rassemblement national, toutes les formations engagées dans le scrutin mettent en avant leur sensibilité écologiste, pourvu qu'elles viennent appuyer leurs grilles idéologiques. L'Opinion qui rappelle que le directeur général de WWF France, Pascal Canfin, a quitté aujourd'hui ses fonctions à la tête de l'ONG afin de rejoindre la liste de La République En Marche pour les élections européennes, liste qui sera dirigée par la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui s'apprête donc à démissionner. Le journal Le Maine Libre revient quant à lui sur les violences qui ont eu lieu aujourd'hui en centre-ville du Mans entre des forains et les forces de l'ordre. Le Mans en état de siège, titre le journal avec la photo d'une caravane en feu. Des affrontements, des blocages, le mouvement des forains a atteint son paroxysme. Dans le journal Les Échos, Daniel Fortin nous parle d'Apple. Apple à l'heure du Big Bang stratégique. La marque à la pomme a présenté en effet aujourd'hui ce qui s'annonce comme un virage stratégique d'envergure. Un moment clé dans l'histoire du groupe, contraint de faire face au ralentissement du marché mondial des smartphones, nous dit le journaliste. De quoi s'agit-il ? Eh bien d'un nouveau service de streaming vidéo sur abonnement qui propose non seulement les offres de plusieurs télévisions payantes comme HBO, mais aussi des productions maison signées Steven Spielberg ou Oprah Winfrey, avec une base d'1,4 milliard d'utilisateurs d'iPhone dans le monde. Cette nouvelle offre peut apporter de confortables revenus au groupe. Et puis la Nouvelle République des Pyrénées nous apprend qu'il y a 30 ans débarquait à Lourdes un Messie, un certain Diego Maradona, le footballeur argentin en pèlerinage dans la cité mariale pour honorer une promesse. Une visite qui apparemment a beaucoup marqué les guides présents avec lui ce jour-là. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Et on va faire un tout dernier point sur ce France-Islande, Cyril de la Morinerie. Il n'y avait pas Maradona sur le terrain, mais il y avait beaucoup de talent. Hein.
Non, non, mais le Maradona français Mbappé a marqué, a fait une talonnade. L'autre Maradona français, c'est Griezmann. Il a marqué aussi dans une très très belle équipe de France, 4-0. On est dans le temps additionnel. Il reste 1 minute 30 à jouer. Tous les supporters sont debout. On agite les drapeaux tricolores parce que c'est une très belle performance. Alors c'est vrai que cette victoire contre la Moldavie 4-1, elle est assez logique parce que c'est une équipe très faible. Là, l'Islande, ce n'est pas rien. C'est quand même une équipe qui a été quart de finaliste de l'Euro 2016. Certes, battu 5-2 par l'équipe de France, qualifié pour la Coupe du Monde. Et voilà, mais les Islandais, là, ils n'y sont pas du tout. Et les Français ont fait un match plein avec une tête d'Umtiti pour commencer, avec un poteau rentrant à la suite d'un centre de Mbappé. Ensuite, eh bien, il y a eu ce deuxième but d'Olivier Giroud en seconde période grâce à un centre de Benjamin Pavard. Le troisième but français inscrit par Mbappé avec Griezmann qui lui a donné dans la profondeur. Superbe but de Mbappé, son 12e but en 30 sélections, rendez-vous compte. Et puis le quatrième, c'est une talonnade de Mbappé et qui sert Griezmann qui lobe le gardien de but. Lui, Griezmann, marque ce soir son 28e but. Mais une équipe de France qui a largement dominé les débats, qui fait plaisir aux spectateurs et puis qui soigne aussi plus que des statistiques. C'est le goal average et ça, c'est important parce que l'équipe turque s'est imposée 4-0 tout à l'heure face à la Moldavie. Et grâce à ce succès, si c'est confirmé des Français 4-0, bien les Français seraient toujours en tête de ce classement des éliminatoires, sachant que les deux premiers seront qualifiés pour l'Euro. Mais enfin, c'est toujours mieux de terminer en tête,
c'est mieux,
et de
oui.
soigner les statistiques. On est à la fin de ce match et je vous confirme donc sur Europe 1 en direct la victoire de l'équipe de France 4-0 face à l'Islande.
Merci beaucoup Cyril Delamorinerie qui nous a fait vivre ce match et ses 4 buts en direct. Un 4-0 des Bleus qui a un peu retardé le plaisir de vous retrouver, Sophie Peters. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle. Mais moi j'ai le plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances.
Excellente. Merci beaucoup.
Et en pleine forme pour ce retour.
Merci Sophie. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.